Est-ce que le micro fonctionne? Oui.
Ah, d'accord. Donc,
Alors, je vous propose de passer au débriefing maintenant. Alors, peut-être première conclusion, c'est que une heure et demie, c'est un peu court pour terminer une partie.
Ah bah oui, c'est clair.
Donc, à commencer si on a du temps. Il y a un petit côté Monopoly, avec des valeurs plus jolies quand même.
Bon, on avait envie de vous entendre voilà, sur la manière dont vous avez ressenti le jeu. Donc, il y avait le petit questionnaire qui est important pour nous aussi pour améliorer. Et comment voilà, vous l'avez senti et est-ce que vous avez eu des difficultés particulières?
En fait, ce qui est... ce qui était compliqué, de toute façon c'est comme tout jeu, hein, au début il faut découvrir les règles du jeu, etc. L'avantage, le fait d'avoir un maître du jeu, c'était plus simple, mais là, pas assez de temps pour approfondir. Après, ce qui est sympa, c'est ce côté collectif. C'est très enrichissant et puis ça permet aussi de se projeter. C'est du réel aussi, donc voilà. Je continue.
Ouais, c'est vrai que l'aspect maître du jeu est important. Je ne sais pas si simplement livrer à nous-mêmes avec les règles où on en serait à ce moment-là. Ouais.
Oui, moi, c'est juste une petite réflexion, question, c'est au niveau des illustrations, parce que je les connais, en fait, ouais. Dans le sens où je sais de quel site ça provient. Du coup, est-ce que vous avez pensé à les refaire? Ouais, d'accord.
Ça va être sur tablette graphique et compagnie. Là, okay. C'est pour une question de temps, c'est dire.
Ouais. On a encore des supports qui sont pas totalement... Enfin, on a utilisé des choses qui existaient sans forcément encore valider l'utilisation des droits, donc, notamment sur les personnages. Et donc, là, l'idée, c'est de retravailler les personnages en particulier pour la prochaine étape.
Oui, donc, l'esprit global est très intéressant. Mais par contre, je pense que justement, on parle... Il me semble, la philosophie, c'est le collectif, c'est-à-dire mettre autour de la table des gens, alors après, les acteurs qui seront divers et variés, mais c'est organiser le collectif, c'est important, pour qu'il y ait une expression efficace. Alors évidemment, on a plaisanté parce qu'on était ce matin des testeurs, mais je pense que dans la réalité du jeu, c'est important que chacun puisse s'exprimer, donc organiser un petit peu les choses, quoi. C'est un peu un mystère, c'est le projet individuel. Alors j'ai bien compris l'esprit, c'est chacun a des intérêts personnels éventuels. Et puis, ça dépend. Moi j'ai tiré une carte. La nature de ce projet n'est pas évidente, quoi. Enfin, par rapport au collectif, encore une fois. Alors après, sur une durée assez courte, c'est comment on donne priorité au collectif par rapport à l'individuel. C'est complexe. Et puis je pense que je termine avec ça, le maître du jeu, pas le coordinateur, je ne sais pas comment l'appeler, ça me semble important. J'ai fait un peu d'anticipation. Demain, si vous avez vous parliez d'élus, si vous avez des gens de ce type, et s'il n'y a personne qui organise, ça ne marchera pas, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui impulse, qui régule, et puis voilà. Mais sinon, il y a pas mal de choses intéressantes. Et après, peut-être qu'il y a un dernier point que je voulais aborder, c'est le choix de... On nous dit qu'il faut choisir trois projets. Et ensuite, quand on joue, une réflexion, mais est-ce qu'il ne faut pas dire on commence par celui-là? Parce que précise pas les choses, pardon, c'est un peu fouillis, quoi, parce qu'on dit on a trois projets, il me semble, c'est ce que moi j'ai ressenti. Voilà.
Donc ça, c'est vécu de ce côté.
Oui, en fait, table, du coup, c'est vrai que ça aurait été bien de se dire au départ on commence par celle-ci, et en fait lancer le décompte des tours au fur et à mesure. Du coup, voilà. Et en fait, comme il y a des missions qui ont été réalisées avant la fin des tours, du coup, ça permet de se dire, là, on a résisté la première qui était en trois tours en deux. Du coup, on commence l'autre, donc on raccourcit le temps de projet. Voilà.
Alors que nous, on a fait l'effort, effectivement, de bien identifier ce qu'il nous fallait comme compétences, si c'était plus facile de réaliser les missions collectives, celles qui étaient les plus évidentes, finalement, à réaliser au démarrage. Et donc, après, on les a positionnées sur le timer, quoi.
Ouais, voilà. Nous, on l'a fait un peu après, en fait. Ouais.
Le tiers lieu, parce que c'était session, oui. On avait
Oui, c'est surtout la plus facile à réaliser. Ouais. Je crois qu'il y a peut-être une question d'équilibre à poser, parce que de fait, la mission en 7 tours de financement, 5 acteurs, elle est évincée un peu d'elle-même, alors que...
Ce qui me semble intéressant d'un point de vue pédagogique, là, c'est ne serait-ce que déjà avec 2 tables, 2 façons finalement de commencer à travailler ensemble, ou pas, c'est que ça permet, ne serait-ce qu'après 1 heure, de pouvoir amorcer des éventuelles discussions sur la méthodologie de ce qui fait collectif, de ce qui permet d'animer une coopération ou une collaboration dans le temps, sur un territoire donné, etc. Oui. Et oui.
Je pense qu'un des aspects très intéressants du jeu, c'est de jongler entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Ouais.
Et juste une parenthèse, du coup, pour savoir ce que tu as dit, 1 heure et demie de jeu, mais en fait, on n'a pas joué 1 heure et demie, puisqu'il y a eu l'introduction.
Il y a eu l'explication des règles, mais je suppose que dans des configurations que vous allez vous trouver, il y aura de toute façon une explication des règles. Donc, comptez avec.
Non, ce que je voulais dire, c'est, est-ce que quelqu'un a noté à quelle heure on a commencé vraiment et combien de temps effectif de jeu on a eu? Une heure.
Une bonne heure, ouais.
Oui, parce qu'en fait, j'ai eu l'impression qu'on a passé pas mal de temps sur la première phase. Et après, on a joué, mais voilà, c'est peut-être que la proportion est peut-être... Okay.
Oui, pour mon ressenti, en fait, c'est que pour moi, c'est vraiment une découverte. Et bon, j'ai déjà entendu un peu sur le plan théorique, les différents acteurs qui interviennent quand on monte un projet. Mais là, donc, on joue vraiment et c'est du pratique, en fait. Oui, oui, mais bon, c'est un jeu, mais ça nous permet vraiment de voir les différentes stratégies, les contraintes, les différents acteurs à qui s'adresser. Et là, ces échanges collectifs, et puis comme on avait des maîtres de jeu qui sont très compétents, alors ça nous aide beaucoup. Mais bon, 1 heure, c'est trop court, hein? Oui, oui. Parce qu'au début, on ne comprend rien du tout, mais au fur et à mesure, que, voilà.
C'était une mise en bouche.
Merci beaucoup.
C'est ce qu'on disait de façon informelle, la question de... Enfin, dans tous les jeux, la première impression... Et ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à démarrer au bout d'un quart d'heure, de 10 minutes, peut-être même le premier tour, c'est quelque chose qui bloque là, il y a quelque chose qui freine un peu. Et donc, en tout cas, moi, c'est le ressenti, et puis je pense qu'il est partagé. C'est vraiment de faire en sorte que le premier tour se fasse le plus rapidement possible, peut-être de façon édulcorée par rapport au tour suivant, avec des consignes qui seraient peut-être encore un peu plus... un peu plus simplifié, et qui donne en fait à faire tout de suite. Et puis ensuite, éventuellement, par le recul, on se rend compte que peut-être que de faire tout de suite, si on avait pris un peu plus de temps pour se mettre en parole, comme on le disait, entre les deux groupes, il y avait plus ou moins peut-être de discussions sur comment on s'organise, etc., ça permet d'avoir encore une fois un retour pédagogique intéressant. Donc, encore une fois, je pense que là, en termes d'usage, on peut se dire il y a peut-être cette entrée 1 heure, pas plus, mais qui permet juste d'amorcer en fait une discussion, un débat, un retour méthodologique, par exemple pour entamer une formation ou un atelier sur la coopération, la collaboration dans la ville, dans le territoire. Et puis effectivement, il y a peut-être cet atelier qui d'ailleurs est... moi je vois quand même aussi cette question d'intertable où il y aurait plusieurs parties et ensuite on compte les points, c'est-à-dire les groupes en gros qui ont été les meilleurs pour jouer collectif. Donc, ce qui fait qu'il y a une compétition dans ce qui fait de la collaboration par table. Et donc il y a cette table là et puis il y a cette table, on va dire jeu peut-être encore un peu plus installé, où là on s'y met 2 heures, peut-être 2 heures et demie, et on va au fond des choses, mais avec peut-être une carotte qui reste encore à inventer, c'est de se dire on reporte ces missions individuelles et collectives, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on gagne à la fin dans ces gains de missions en fait. Et voilà, là c'est vrai que là c'est une question qui me vient comme ça.
Juste à l'usage, mais c'est pratico-pratique, hein. Je pense qu'il y a encore beaucoup de textes en fait, sur les cartes, donc il faut vraiment qu'on simplifie, parce que la lecture, et souvent on revient sur la lecture des cartes régulièrement, donc voilà, je pense que ça, mais on se l'était dit déjà, peut-être...
Après, ouais, vas-y, non, vas-y.
Non, je me demandais si vous aviez, à un moment donné dans l'élaboration du projet, pensé à mettre des caractéristiques un peu sociales au niveau de la ville, parce que c'est vrai qu'on le but est de créer une ville idéale et on part d'un plateau de jeu et d'une situation idéale. Est-ce que ça vous est venu à l'esprit de mettre voilà, des chômeurs, des migrants, des problématiques sociétales que peut-être les élus auraient envie de résoudre, ce qui leur donnerait envie de jouer au jeu?
Qui veut répondre? Qui veut?
Ouais, on n'y avait pas pensé.
Alors déjà, oui, c'est ça, c'est qu'on n'y avait pas pensé. On était parti un peu d'une... Oui, de cette ville un peu mise à plat, en quelque sorte, par le plateau. En se disant, bah voilà, y a des lieux, ces lieux sont peut-être du bâti, il y a peut-être une dimension matérielle, et c'est de se dire comment on vient révéler ce qui n'est pas forcément visible à première vue, c'est-à-dire ces interrelations, ces compétences, des ressources, quelles qu'elles soient. Mais effectivement, on a peut-être été un petit peu dans ce qui nous venait naturellement aussi, et peut-être pas aller chercher justement les populations un peu à la marge, notamment, ou des situations à la marge aussi dans les missions. C'est vrai qu'on a été un peu sur des actions un peu peut-être traditionnelles qu'on peut retrouver dans les villes, c'est-à-dire monter une association, monter une entreprise, monter un événement, etc. Oui, à creuser, certainement.
Ouais. Après, moi, c'est ce que je disais ce matin, je pense que le jeu, en fait, il peut aussi être adapté en fonction des contextes, c'est-à-dire que moi, je pense, à voir, hein, que ça pourrait être aussi un plateau ajustable, qu'on compose en fonction de la demande. Ouais. Avec des options et peut-être avec des publics différents, bah diversifier les lieux, les missions. Voilà. Peut-être que ça demande effectivement d'aller sur plusieurs plateaux, plusieurs types de missions en fonction du public.
Une version ville en transition, une version ville comestible. Ouais.
Après, voilà, nous, on a été sur des trucs qui nous motivaient. Enfin, concrètement, le brainstorming autour des missions, c'était alors attends, qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on imaginerait, nous, comme ville idéale. Enfin, voilà, après, c'est très subjectif, en fait.
Donc, il faut que je me présente. Je m'appelle... Ouais. Donc je m'appelle Pierre Julland, donc je suis à la retraite, je suis l'ancien directeur général des services de la communauté d'agglomération d'Uniortais et je suis doctorant formateur. Et je travaille sur un sujet, comment associer le citoyen à la chose publique. Et ce que je voulais simplement évoquer, c'est dans les projets personnels, là, les petites cartes là, alors peut-être que ça existe parce que je ne les ai pas toutes vues évidemment, je pensais à laisser une question ouverte. C'est-à-dire proposer quelque chose. Et dans ce proposer quelque chose, puisque je travaille un peu dans ce domaine, il peut y avoir des idées originales qui viennent si on fait jouer des acteurs locaux, notamment dans tout ce qui est rôle des dirigeants. Puisque là, on est dans la construction d'une cité, mais il y a quand même des humains. Il y a des gens qui gouvernent, il y a des acteurs, etc. Et donc, quelqu'un, à titre individuel, peut dire, tiens, ben, si on faisait autrement un peu, ce serait... Vous voyez, laisser ouverte des projets, au lieu de dire, votre projet, c'est celui-là, alors, c'est bien, mais peut-être une ou deux cartes ouvertes, voilà. Et ça permettrait à chacun d'apporter éventuellement sa pierre, puisqu'il y a des idées qui peuvent naître comme ça. Hein,
voilà. Ouais, c'est l'idée des jetons lieux qu'on avait mis vierge, en fait, en se disant, on peut matérialiser, entre guillemets, une mission... comme on souhaite, on peut inventer un truc, mais carrément le faire sur une mission, ouais. Bah, limite avoir des cartes à jouer qu'on invente hein, au fur et à mesure. Quoi.
Bien, est-ce qu'il reste des questions? Sinon,
Moi j'ai une question à vous poser, comment vous diriez quelle est la proportion entre l'amusement, l'intérêt, l'apport en termes de voilà, d'enrichissement par rapport à notre objectif qui était effectivement un peu de faire de la pédagogie. Enfin, voilà, comment vous mesuriez ça un peu à chacun individuellement
C'est bien notre parcours individuel.
Ouais.
Chacun le ressent en fonction de son parcours, en fonction de sa vision. J'ai une vision de la part mieux, je pense que il me semble,
parce que je fais toujours un peu par rapport à ce que vous avez dit, qui va jouer quoi. Donc si vous mettez autour de la table des élus, c'est pas du tout la même chose que des citoyens. Et je pense, je le mets sur ma fiche là, mais je pense que, parce que c'est ma phobie, la pédagogie du citoyen, vis-à-vis du citoyen. Quoi. On est dans une société complexe, personne ne comprend rien à ce qui se passe, et donc ce type d'outil peut être intéressant pour permettre à des citoyens d'appréhender des choses essentielles, en restant sur le côté ludique. Et je pense notamment aux étudiants, je pense aussi aux jeunes, puisque c'est eux qu'il faut cibler, hein, ceux qui font la société de demain. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de penser au public qui va l'utiliser. Hein, c'est pas simplement on fait un jeu puis voilà. Et donc le ressenti, enfin moi personnellement, le ressenti c'est par rapport à mon vécu évidemment.
Merci.
Donc ça remplacera pas la bonne paye pendant les soirées d'hiver, mais.
D'abord peut-être. Il y avait une question.
Comment vous avez ressenti le jeu? Oui.
Bonjour, donc je m'appelle Marie-Vonne. Faut tout que je me présente là. C'est déjà pas mal, hein, c'est beaucoup. Faut pas trop en dévoiler. Le jeu, alors, mais moi j'ai l'esprit jeu. Alors, voilà, j'aime bien arriver à manœuvrer pour aller à mes fins. On joue beaucoup. Non, mais je comprends qu'après une autre personne qui, moi, vu que je joue le, moi je me mets dans le rôle, quoi. Alors, après, j'aime bien les jeux de rôle, une mise en situation. Donc moi je me mets dans le rôle. Hein, je suis un peu. Ah bah oui. Moi mon optique c'est quand même de gagner. Il y a un esprit. Ben non mais. Non mais attends, on s'entend bien. Après je me dis si ce jeu là il est transporté, par exemple si je prends ce même jeu et que je mets à la table autour de, moi je travaille dans une communauté de communes qui a fusionné, donc ils sont pas mal d'élus autour de la table, dans les conseils communautaires ils sont plus de 100 élus à devoir voter, donc je me dis que si on se prend ce jeu là et qu'on le transporte par exemple entre les élus de ma collectivité, il y en a qui auront mon rôle un peu de manœuvrer à ses propres fins malgré, voilà, le gourou, voilà, j'ai pris ce rôle-là, mais j'aurais eu un autre truc, j'aurais manœuvré dans un autre sens, moi, il n'y a pas de problème. Là, c'était vert, c'est cool, mais ça aurait été pour faire des buildings, j'aurais fait des buildings, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Pour le jeu, voilà. Après, je me dis, il y a des élus, je pense que ça va se voir au comportement des gens. Il y a des élus qui ont le côté un peu plus effacé, il va y avoir des élus qui vont manœuvrer que pour le collectif, jamais voir un individuel. Mmh. Donc, ça dépend vraiment, effectivement, où est-ce qu'on emmène notre jeu et qui on fait jouer. Après, je pense que le caractère de chacun fait que on s'intéresse, enfin on a nos propres intérêts, moi en tout cas voilà, j'y colle intérêts.
Est-ce que du coup ça pose la question de, enfin, je pense en même temps, enfin je réfléchis en même temps, de rendre obligatoire l'émission individuelle dans le sens où il faut au moins en réaliser une et entre guillemets, alors là du coup la mission individuelle c'était je sais plus accomplir quelque chose pour soi, enfin voilà. Est-ce que du coup ça peut obliger certains qui ont une tendance naturelle à aller vers voilà, certaines choses, à aller vers d'autres choses, enfin je sais pas, est-ce que ouais du coup est-ce que ça pourrait être, parce que là en fait finalement parmi les joueurs il y en a pas mal qui ont fait le choix de pas la jouer la mission individuelle, voilà, est-ce que
c'est vrai que dans l'équilibre du jeu, peut-être que ça c'est un point à réfléchir, mais les missions collectives ont complètement pris le pas sur les missions individuelles, ouais. Moi j'ai l'impression.
Ouais, Céline, elle peut pas la jouer parce qu'en toute façon, on a sélectionné nos trois collectifs, ouais. Donc elle est coincée. Est-ce que dans ces conditions-là, on peut pas faire un SEM de défausser sa mission ouais. individuelle, ouais. pour en piocher une nouvelle?
Oui, ça peut être dans les tours de jeu. Je choisis de me défausser de ma mission individuelle et j'en pioche une autre. Ouais.
Aucune, je pouvais pas du tout faire ma mission individuelle. Du coup, j'ai laissé de côté dès le début parce que de toute façon, elle n'était pas réalisable. Ouais. Donc après, c'était soit pouvoir la défausser, en prendre une autre, parce que du coup, Marie-Vonne, elle avait sa mission individuelle, mais qu'elle pouvait faire dans le cadre des missions collectives. Donc voilà. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je pouvais pas du tout. Donc du coup, je me suis pas attardée. J'ai fait que sur le collectif. Même si, en général, d'une manière, après, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, c'est propre à chacun. J'aurais été plus sur la mission collective, d'ailleurs un peu trop, parce que j'ai un peu, j'ai un peu embarqué les autres à dire il faut faire la mission.
Voilà, mais dans la réalité, on a aussi des gens comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pro-collectifs et d'autres qu'il faut essayer de tirer et qui sont dans des approches complètement égoïstes. Ou voilà, c'est aussi la réalité.
Il y a peut-être cette option.
D'autres remarques? Bien.
En tout cas, moi, je voulais surtout... Il y a un beau travail, je pense, au niveau de l'équipe, et puis aussi remercier Christophe qui nous a aidés sur le dernier temps. Là, et Isabelle a fait un gros, gros boulot de mise en forme pour arriver aussi avec...
que vous puissiez jouer avec des cartes un peu
voilà,
correctes.
Voilà. voilà, je pense qu'on est bien complémentaires et on espère que voilà, ce jeu va aboutir à quelque chose et pouvoir être utilisé à terme.
En tout cas, on est très contents d'avoir joué avec vous aujourd'hui. Enfin, moi, en tout cas,
merci,
je suis super contente.
Merci à Créativité et Territoire et donc le MF.
Merci à vous. Peut-être une dernière, ça me vient juste à l'esprit là maintenant. Peut-être que dans le storytelling un petit peu qui accompagne le jeu, où il pourrait y avoir des références. Alors bon, je veux pas faire mon médiateur culturel à tout craint, mais simplement des références, puisqu'il s'agit de bâtir la ville idéale. Il y a quand même des grandes références culturelles qui seraient mobilisables aussi de ce point de vue-là. Et puis pas partir nécessairement de zéro pour ça. Les Thomas More et Rabelais et consorts sont là pour ça. Peut-être que ça donnerait une identité sympa au jeu. Pareil pour une extension éventuelle plus tard.
J'ai vu que vous aviez des cartes blanches là. Peut-être que du coup, peut-être que là on a créé la bibliothèque. Peut-être qu'on aurait pu donner un nom à la bibliothèque, par exemple, ou qu'on puisse écrire après effacer avec le genre un marqueur d'ardoise là. Parce que du coup, c'est dommage qu'en plus ça cache le point bibliothèque. Nous, on avait un point blanc à la place. Puis alors je pense, là on est en début de partie, mais si on joue plusieurs tours. Moi, je ne retiens pas forcément où sont les points. On ne sait plus trop où c'est. Alors que si on aurait mis bibliothèque Rabelais, truc sympa, ça aurait claqué, quoi.
Bien. Vous avez de quoi faire, je pense, déjà, avec, avec la somme des retours que vous avez eus.
On a du boulot.
Voilà. Alors, en même temps, vous avez, pour l'équipe test, vous avez quand même sélectionné un panel... Vous vous mettiez un petit peu en danger, là. Ah. Mais vous n'avez pas joué, vous.
Étienne Delorme du Festival des Jeux de Parthenay, de Flip. Non, moi, j'ai juste observé. Mais par contre, par rapport à la somme des retours que j'entends depuis tout à l'heure, me viennent en tête deux noms de jeux qui pourraient vous aider, certainement, en termes de base. Le premier, c'est City. City de chez Gigamic, parce que ce petit jeu justement est sur une espèce de construction de ville en deck building, et vous parliez tout à l'heure de simplification des textes sur les cartes, donc je pense que ça peut peut-être vous donner une base juste comme ça de repérage. Et à l'opposé, à titre de contre-exemple total, Fricksol, Frick, F-R-I-C et Sol, S-O-L, qui était une initiative qui a été développée, alors ne me demandez plus tous les partenaires qui étaient investis dans la boucle, mais je me souviens que ce jeu était très intéressant et très intelligent sur la démarche, puisqu'il veillait à créer de la médiation et à sensibiliser sur l'utilisation du sol, et c'était une espèce de, finalement, d'anti-monopoly, mais sans tomber dans un extrême d'anti-monopoly. C'était plus pour faire réagir les gens et les sensibiliser. Le problème de Fricksol, c'est que je l'ai mis en animation ces années-là sur le Festival des Jeux de Parthenay, et il a eu un succès très mitigé, puisqu'il était très compliqué à expliquer, très long à mettre en œuvre, et justement les cartes avaient beaucoup de textes, elles n'étaient pas forcément toujours très concrètes. Enfin voilà, il y a eu un certain nombre de choses qui... Le jeu en lui-même, hein, dans sa qualité, on va dire, d'édition, était là, mais... Voilà, il y avait un certain nombre de choses qui faisaient que le jeu était peut-être trop éloigné d'une approche simple et ludique pour le grand public, et trop orienté vers vraiment la médiation sur des professionnels très avertis. Et là, ça me permet de rebondir sur l'un des témoignages que j'ai entendu tout à l'heure sur les élus. Je partage totalement. Le flip, c'est la même. C'est-à-dire qu'on est dans une collectivité avec 60 élus décisionnaires. Évidemment, faire jouer 60 élus en même temps, c'est très compliqué. Voilà. Ça me donnerait presque l'idée de dire, si un jour le jeu devait s'adresser à ce type de public-là, il faudrait presque organiser une soirée ou une journée ou un week-end entier auquel serait conviée l'intégralité des élus, où vous seriez présents et où vous associeriez différents services tels que la ludothèque, le service urbanisme. Là, ça permettrait peut-être de déclencher des choses, mais voilà, ça c'est dans le cas où ce serait orienté vers ces professionnels, ces élus. Voilà, c'était mes petits retours de fin de séance. Merci à vous.
Juste une question quand même, parce que moi, je me pose la question depuis un petit moment, est-ce qu'il existe déjà un... Parce qu'en fait, quand on a eu l'idée du jeu, donc on est parti des bâtisseurs en fait. L'idée au départ c'était juste de détourner les bâtisseurs, et en fait on en est arrivé à se dire non mais il faut qu'on crée un jeu quoi. Et du coup la question que je me posais, c'est est-ce qu'il existe déjà des jeux qui s'en rapprochent? Enfin, il faudrait pas non plus que... Enfin, je sais pas comment dire, mais... Ouais, est-ce que du coup il y a déjà des jeux qui sont... À part ces deux-là, ouais, il n'y en a pas d'autres qui vous viennent en tête? Si, Christophe?
Il y en a des dizaines.
Ouais, bah oui.
Il y en a des dizaines. Hein, les jeux, ils ont globalement, ça a commencé vraiment dans les années 80, je dirais, le développement des jeux de société entre guillemets modernes, avec une revue qui s'appelait Jeux et Stratégie, qui a initié des générations entières de gens dont je fais partie, dont fait partie Étienne et autres. Et des jeux de développement de cité, c'est un thème classique. Donc je peux vous en sortir des dizaines dans des univers différents. Dans les jeux récents, il y en a qui s'appelle Quadropolis, ou Quadrapolis, je ne sais plus, vous pourriez regarder aussi, qui est facilement prenable tel quel et animable sans vouloir ajouter des choses. Et après, sur les jeux un peu sérieux, il y a quelques prestataires de référence en France, dont un qui est la Chambre de commerce de Lyon, qui a un service d'ingénierie et de pédagogie ludique, et qui développe depuis des années des jeux tournés vers les entreprises, les élus, etc., et qui fait des jeux de deux façons, soit sur mesure, un peu ce que vous avez fait là, soit en utilisant des jeux du marché et en les adaptant à la problématique. Et ils sont capables de faire aussi bien des formations sur de l'anglais, sur du commercial, sur la gestion de projet. Donc tous ces domaines-là existent déjà. Ils sont peu visibles, ils sont peu médiatisés, mais ils existent.
Mais ça ne doit pas vous empêcher de poursuivre votre œuvre au sens où, de toute façon, dans le milieu du jeu de société depuis les années donc 70-80, il y a eu énormément de choses de faites. Les uns se sont inspirés des autres. Ce qui revient souvent, ce sont quand même des mécaniques proches. Mais après, les thématiques ou la façon de traiter ces mécaniques dans le genre lui-même, ça, c'est propre vraiment à chaque auteur. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et de toute façon, à partir du moment où vous allez commencer à le faire tester à des éditeurs, soit ils vont vous dire « Ah, désolé, ça c'est vraiment trop proche de tel jeu que j'ai édité dans telle année ou que mon collègue. » Mais vous serez vite averti, en fait, sur le la réponse à donner. Bien sûr, ça présuppose que vous essayez de les faire jouer à différents éditeurs sur des salons. Alors, on peut parler du Flip qui est pas très loin, mais il y en a d'autres à travers la France. Maintenant, vous avez plus de 150-200 festivals petits, moyens, grands sur lesquels vous avez de nombreux éditeurs présents, donc qui peuvent être de bons points relais pour aller tester ces jeux-là. Vous avez également les cafés ludiques qui se développent de plus en plus, dans lesquels vous pouvez trouver des communautés de joueurs qui seraient très intéressés pour tester des prototypes. Enfin, voilà, je vous encourage vraiment à le faire tester un maximum. Ça vous fera. Après, ne prenez pas tous les retours en considération. En permanence, parce que sinon ça ne sera plus votre jeu, mais celui des communautés de joueurs. Donc ça, c'est le risque aussi, de ne pas complètement transformer votre œuvre de départ et de bien la disposer avant. Voilà.
Oui, voilà. De toute façon, c'est une règle tacite quand on est dans un processus de création, c'est de savoir regarder et s'ouvrir, mais de pas rester bloqué là-dessus, sinon évidemment on ne fait plus rien. On va pouvoir peut-être passer à la suite. Alors cette fois-ci, on va rester dans le domaine du jeu, mais le jeu vu par les Gallo-Romains, en demandant donc au musée de Roranum de venir nous rejoindre à la table. Alors Roranum, pour situer, c'est sur la route de Caesarodunum, entre Lemonum et Mediolanum. Un slide.
Non, faut jouer sur les tables avant parce que c'est des plateaux de jeu. Moi, je suis. Ok. C'est... Non, enfin, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas jamais d'obligatoire. J'ai à peu près tout. On devrait s'en sortir. Donc, il faut que je prenne le micro parce que je suis enregistrée. Blablabla. Alors, je ne prends jamais le micro. Je tiens bien à le dire. Je suis désolée si c'est pas joli. Bon, rebonjour à tous. Donc, je m'appelle Marie-Vonne Lambert, je travaille au musée de Roranum à Ron,
donc, qui est à peu près à 3/4 de Poitiers, en bordure de National 10. Voilà, donc sud de Sèvres. Je suis de l'autre côté quand même. Je suis une Sèvrienne. Voilà. Ouais, Céline est contente, elle est du pays. Du coup, je suis animatrice culturelle au musée Aron. Donc voilà, c'était juste pour le préciser. Mon travail sur les jeux gallo-romains, en fait, n'a pas commencé pour le musée de Roranum. Il a commencé en fait avec... alors, à l'extérieur du musée, je suis dans une association de reconstitution historique qui s'appelle Taïfali. On a un membre qui habite à Parthenay, qui aime bien aller au flip. Est-ce qu'on en a parlé ? Est-ce qu'on aimerait bien que je me rende une fois, que je m'installe au flip avec mes jeux ? Alors, voilà. Donc, j'ai monté cet atelier vraiment dans le cadre de la reconstitution historique. Donc, j'ai de la chance, c'est que je croise d'autres constituteurs qui ont aussi des jeux et on recoupe nos règles. Si vous allez, il y a des petits soucis parfois dans la compréhension des règles à l'époque antique. Voilà. Donc, c'est assez simple. J'ai, au début, on a travaillé là-dessus. J'ai monté les jeux. Donc, j'ai très vite vu, en fait, en reconstitution, donc il y a un point très fort, c'est que les gens jouent en famille. Donc pour moi, j'ai adoré, parce que souvent, maintenant, j'ai remarqué que les enfants jouent à des jeux, les parents jouent à des jeux, mais les ensemble, ils jouent moins. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de copains où les enfants, ils vont jouer à leurs petits jeux à eux, au petit verger, croque-carotte, enfin voilà. Et puis les parents, eux, ils vont faire les jeux de rôle, les jeux un peu plus élaborés, mais ils ne vont pas forcément se mélanger. Et je l'ai vu chez pas mal de copains. Donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Donc j'avais emmené ça en reconstitution. Et moi, mon idée, c'était vraiment d'arriver à faire jouer les parents et les enfants ensemble. Donc, mais c'est parti sur des petits jeux très bêtes, hein, sur des lancers de noix, il n'y avait rien de très mirobolant. Et en fait, ça marchait. Et les enfants étaient ravis de pouvoir jouer vraiment à des jeux avec leurs parents. Voilà. Puis après, cet atelier, je l'ai pris, puis je l'ai transposé au musée. Et en fait, je l'ai vraiment détaillé pour pouvoir en faire un atelier pédagogique, aussi bien pour les scolaires que pour des visites lambda. Donc, on s'en sert lors. Donc, l'autre jour, quand on a eu l'article dans la presse, par exemple, c'était pour les Journées européennes du patrimoine. On avait sorti les jeux pour que les gens puissent découvrir les jeux de nous, ce qu'on avait en tout cas sur l'époque gallo-romaine. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des demandes, vous pouvez vous exciter. Pour prendre la parole, parce que je suis pas.
Et je vais accourir avec le micro.
Voilà. Et Florent va courir avec le micro. Je ne. Voilà. Ah. Du coup, donc il y a les jeux gallo-romains. Donc pour moi, il y a. Donc je vous ai mis une définition de la règle du jeu. Pour moi, il y a un point très intéressant, c'est que le jeu, c'est un peu transgénérationnel. C'est-à-dire que. Que l'âge qu'on est, du pays où on est né, ou de notre couche dans laquelle nous vivons dans la société, tout le monde a une tendance à jouer. Après, il y a le joueur qui va jouer au jeu de société ou en société avec d'autres joueurs. Il y a le joueur très individuel qui va avoir le côté très individualiste du jeu. Puis il va y avoir le joueur qui va avoir un côté lucratif au jeu. Et là, on n'est pas sur le même type de jeu. On a des beaux dessins au musée de Roranum. Et je ne vous ai pas dit aussi, parce que j'avais mis le logo, le musée de Roranum dépend d'une communauté de communes. On a un service d'une collectivité qui s'appelle la communauté de communes du Célois, Mélois, Cœur de Poitou. C'est la future, c'est du teasing, ça, en plus c'est enregistré, c'est la future Mélois en Poitou. C'est beau, hein. Donc du coup, moi, vu que ça marche avec le musée, moi je suis partie sur... des sources du coup archéologiques, donc ce qu'on peut trouver en fouille, des sources iconographiques et des sources écrites. J'ai pas essayé de tricher. Bon, le souci avec les sources écrites, c'est que souvent c'est par exemple Ovide. Donc Ovide, il décrit bien des choses, mais alors parfois faut s'y retrouver entre les lignes. Là, les règles sont pas toujours très claires. C'est un poète qui son écrit peut tendance à la poésie, donc c'est bon. Mais sinon, ça, c'est possible, on peut le faire. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'en plus, quand j'ai une règle de jeu, j'essaye de voir si les copains en constitution, donc dans d'autres troupes avec qui je m'entends bien, s'ils ont déroulé la même règle que moi. Ce n'est pas toujours le cas. On essaye de se mettre d'accord. Donc voilà. Puis je me suis inspirée, je vous ai mis en bas une petite citation du musée du jouet, donc, qui est à 1h30 de Lyon, et à peu près en même temps à 1h30 de Genève, je pense. C'est, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un musée sur le jouet, donc c'est que sur le jouet, et donc ils ont parfois j'ai retiré des informations parce qu'ils ont fait un travail assez intéressant. Donc chez les gallo-romains, le jeu, en fait, la première étape, c'est que le jeu, il est lié avec le développement de l'enfant. C'est-à-dire que chez les gallo-romains, par exemple, Varon, un écrivain, lui, il décrit les étapes du développement de l'enfant et les jeux y sont associés. Donc, je vous ai mis les étapes. Infantia, en fait, c'est la petite enfance. Donc, par contre, ça ne correspond pas vraiment à notre petite enfance. C'est ça qui est compliqué dans les textes anciens. La petite enfance, chez les gallo-romains, ça va jusqu'à 7 ans. Infant, en fait, ça signifie ne pas avoir la parole. Donc, c'est les enfants, en fait, qui n'ont pas le droit de prendre la parole. Donc, jusqu'à 7 ans, ils ne sont pas assez audibles auprès des adultes. Donc, ils n'ont pas le droit de prendre la parole. Donc, ils ont des jeux associés. Les jeux, c'est... Alors, on a fait de la reconstitution, ça. Ils ont, par exemple, des hochets. Ah ouais, ils ont des petits jeux. Alors, le hochet en terre cuite, c'est sympa, mais c'est dangereux. Je tiens à vous le dire. Après, vous avez la puritia. Alors là, vous êtes dans l'enfance. Donc, l'enfance, c'est du 7 à 14 ans. C'est là où on va plutôt développer les jeux liés, en fait, au mimétisme. La dinette pour les petites filles, la poupée. Alors, la poupée, par exemple. La poupée, moi, j'en ai une en... J'en ai une. Alors, c'est une en terre. Elle est belle. Hein. Donc, normalement, elles sont articulées. Donc, moi, j'ai un problème. J'ai fait des trop grandes jambes. Donc, voilà. Et donc, elles peuvent être en terre cuite, en bois. Donc, en bois, on les retrouve moins. Mais on en retrouve quand même. Voilà. Et puis, après, vous avez l'adolescence. Alors, l'adolescence, du coup, ça part du 14 ans jusqu'à 28 ans. Je sors juste de l'adolescence. C'est pour ça que c'est très compliqué. Donc l'adolescence, c'est plutôt les jeux du coup qui vont arriver quand même, qui sont mélangés avec les jeux d'adultes. Il va y avoir le laser, la stratégie avec des jeux de plateau. Et puis en même temps, va y avoir la découverte des plaisirs charnels. Qu'on est voilà. Alors, moi, j'aborde pas les jeux de la découverte des plaisirs charnels. Je viens vous le dire tout de suite. Je mentionne. Je crois que le 28 ans, en fait, chez les Romains, ça correspond pour un homme à la pousse complète de sa barbe. Ouais, on rigole pas. Donc, ah ben ouais, vous n'avez pas le même logiciel que moi, ça a coupé. Ça n'a pas du tout, ça, Madame Nolot. Du coup, c'est jeux d'éveil et de motricité. Donc là, vous êtes vraiment sur des jeux liés pour les enfants. Donc moi, tous les jeux que j'ai, en fait, j'ai essayé de trouver au maximum, en fait, au maximum de possibilités, le jeu dans un musée ou qui a été retrouvé en fouille, donc qui est existant. Donc par exemple, le hochet, on peut le retrouver au musée de Dijon. Il y a le jeu des osselets, par exemple. Il y a la motricité. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont beaucoup joué aux osselets. Alors, les osselets, ça s'est un peu perdu, mais c'est un excellent jeu. Du coup, de motricité fine. Alors, moi, c'est très rigolo avec les groupes scolaires, parce que je perds souvent mes osselets, en fait. Au final, on a fini l'activité. Il manque tout le temps les osselets, parce qu'ils ne savent pas les lancer, donc ils vont partout. Donc, voilà. On a le yo-yo qui existe chez les gallo-romains. On a la toupie. Alors, il y a des types de toupies en bois et en verre. En verre, à mon avis, il n'était pas laissé à tout le monde. Ça devait coûter assez cher. Et puis, alors pour l'instant, je n'ai pas trouvé de qui me plaisait, en tout cas. Donc, j'ai mis autrement. J'ai mis un dessin du musée. C'est un dessin de sabot, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le sabot. C'est une sorte de toupie, alors qui est un peu tombée dans l'oubli. Ça ressemble à ça. On y enroule une corde. Et en fait, avec la corde, on donne un élan et la toupie doit partir en tournant. Si on a un petit fouet, on peut réactionner cette toupie. Ouais, alors je ne fais pas parce que c'est un peu catastrophique parfois. Donc voilà, je ne voudrais rien casser à l'espace Miss France aujourd'hui. Donc c'est ça. Puis après, là, pour les toupies, c'est tout classique. Hein. Les toupies, on fait des toupies classiques. Je n'ai pas de toupie en verre, mais voilà. Donc il y a le sabot aussi qui existe chez les Romains. Puis on a les jeux en fait, qu'on appelle les jeux vraiment de simulacre. Donc ces jeux-là, c'est vraiment pour reproduire des scènes du quotidien. Donc les Romains, ils voient un très très grand intérêt. C'est que ça oriente par exemple la petite fille qui va devenir la matrone de la maison. Bah oui, on est à l'époque gallo-romaine et ça se passe comme ça. Hein. Je suis désolée, la femme n'est pas libre et du coup, elle est orientée pour son travail vers la maison. Alors ce n'est pas le cas de toutes les femmes, hein, mais en tout cas, la majorité, ça se passe comme ça. Puis vous avez beaucoup, on a pas mal... d'animaux qui ont été retrouvés, donc le buffle, le cheval, mais on peut retrouver des coqs, on peut retrouver des poules, des lapins. En fait, les enfants jouent avec pour un peu représenter leur scène du quotidien. Après, on a les jeux d'adresse, donc d'adresse et de réflexion. Donc là, vous êtes dans un univers où on arrive sur des jeux qui sont plus pour les adolescents et les adultes. Donc on a des grands, grands joueurs. Donc on a les jeux en fait de tour de noix. Donc ça c'est Ça, c'est pas mal. Donc, c'est vraiment des... J'ai dit une grosse bêtise. C'est des jeux, les jeux d'adresse qui sont que pour les enfants. J'ai dit une bêtise, excusez-moi. Les jeux d'adresse, c'est vraiment pour les enfants. Donc, du coup, où ils jouent au tour de noix, jeu de la planche, jeu du vase. Donc, c'est vraiment des jeux qui sont liés avec les noix. Alors, les Romains, ils voyaient un intérêt, c'est qu'ils ont, ils ont pas mal de noyers. Donc, les enfants peuvent facilement ramasser des noix et jouer. Donc, ils jouent avec ces noix. Et en fait, en latin, il y a un truc qui s'appelle nunce reliquaire, qui veut dire cesser de jouer aux noix. Et en fait, ça veut vraiment dire sortir de l'âge de l'enfant pour passer à l'âge adulte. C'est vraiment la transition. Donc, à partir du moment où on ne joue plus aux noix, eh ben, on devient un adulte. Le truc avec les jeux de noix, c'est que du coup, ça développe une dextérité. Donc, ça nous permet d'avoir un bon rapport œil lancé. Donc souvent, on oriente les enfants. Celui qui va facilement atteindre, par exemple, la cruche. Donc on met une petite cruche, une jarre, avec une petite entrée. Si on met tout le temps la noix dedans, cet enfant-là, on va l'orienter vers soit le maniement des armes, soit l'orfèvrerie, parce qu'il a de la précision. Donc les Romains, ils repèrent quand même assez vite ce que font les enfants pour pouvoir les orienter. Donc les noix, ça coûte pas cher. Ça, c'est le point numéro un. Deux, les enfants peuvent s'installer n'importe où. Donc, ils investissent les lieux. Alors, si c'est en campagne, les bords des routes, les champs ou autres. Si c'est en ville, c'est pareil, ils investissent les rues, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, nous, on conçoit le jeu. Alors, ça, c'est un peu différent aujourd'hui, parce que souvent, on a tendance à jouer soit avec des plateaux, soit chez nous, enfin, entre nous. À l'époque romaine, on investit beaucoup les lieux extérieurs. Et il arrive parfois qu'on retrouve des jeux gravés sur des sols. C'est le cas sur des bords de voies à Pompéi. C'est le cas aussi vers Lyon, où on a fouillé, donc on peut retrouver des traces de jeux dans le sol. On a des jeux qui sont liés du coup au jeu du cerceau. Et donc j'ai mis cerceau et balle, c'est aussi lié à la motricité, c'est réservé aux enfants. Le cerceau, c'est vraiment le cercle. J'en ai pas emmené, parce que je ne l'ai pas là, mais on a un cercle en fait, de tonneaux qu'on récupère, ou un cerclage de roues donc, qui est plus utilisé. Et les enfants le récupèrent pour pouvoir jouer au cerceau. Il faut avancer le cerceau avec un bâton. Donc, ils peuvent se mettre des niveaux de difficulté, ils peuvent se faire des parcours. Voilà. Donc, on peut exploiter les cerceaux comme on veut. Et puis, on a des jeux de balles. Alors là, ça, c'est, du coup, le jeu de balles il va plus être lié à la tranche adolescent-adulte, dans le sens où, parfois, même le jeu de balles est décrit, par exemple, par Galien, qui est un médecin du 1er siècle, qu'il préconise, alors lui, préconise carrément de jouer au jeu de balles pour se sentir en meilleure santé. C'est un remède. Alors, je ne sais pas si ça marche, hein. Avec le foot, il faut regarder, mais je suis sceptique. Alors après, on a les jeux de réflexion. Donc là, c'est vraiment des jeux où on est posé. Donc par contre, on peut retrouver des jeux gravés un petit peu sur tout. Ça veut dire qu'on peut avoir des marelles sur des morceaux de tuiles ou sur des bords de trottoir en extérieur et on joue avec des cailloux. Ou on peut avoir carrément des plateaux, en fait. Alors la troncule, c'est un jeu où les joueurs sont sur plateau. C'est ce type de plateau. Donc là, on est au niveau bien au-dessus. On est à mi-chemin entre le jeu de dames et le jeu d'échecs. Et l'objectif, c'est de manger tous les pions de son adversaire. Voilà. Donc il y a plusieurs niveaux aussi. Donc ce type de jeu-là, on peut carrément le retrouver sur des morceaux de marbre. On n'est pas obligé de le retrouver gravé sur le simple sol. Souvent, d'ailleurs, c'est vraiment fait sur plateau. Et puis, il y a un autre jeu qui s'appelle le jeu des 12 lignes, qui est un peu différent. C'est un peu comme... Alors moi, je l'apparente un peu aux petits chevaux. C'est qu'on a des pions en début de plateau, il faut qu'on leur fasse faire un parcours. Et à la sortie du jeu, il faut qu'on sorte. Nous, alors c'est 16 pions par joueur, ça fait pas mal. Il faut qu'on leur fasse faire le tour des 16 pions, donc il y a des règles, effectivement. Et au bout, il faut qu'on soit le premier à sortir ces 16 pions. Donc il y a une partie stratégie dans ce jeu-là. Et en même temps, il y a une partie hasard, parce qu'on est obligé de jouer avec des dés. Voilà. Donc ça, c'est un jeu qui est assez prisé, qui était beaucoup joué par les légionnaires. On a retrouvé beaucoup de plateaux de 12 lignes dans des fouilles de campements de légionnaires. Et il peut y avoir des très très beaux plateaux de 12 lignes sur du marbre blanc. Voilà. Donc il peut arriver de trouver des très beaux plateaux. On a le jeu de hasard pur, où la partie réflexion s'en va. Ces jeux-là, c'est vraiment joué par les adultes. Donc, je vous ai mis les jeux de dés. Donc, les jeux de dés, ils existent. Alors, moi, j'ai réussi à retrouver deux règles qui sont jouables. Parce qu'après, il faut pouvoir jouer avec la règle qu'on a, quand même. Donc, j'ai retrouvé deux règles qui sont jouables. Donc, les jeux de dés, c'est quand même beaucoup lié avec l'argent. Donc, les Romains... Alors, par exemple, le légionnaire aurait tendance à jouer toute sa solde qu'il a gagnée au jeu de dés. Donc, il se retrouve très vite pauvre, mais c'est pas grave. C'est très important, il joue au jeu de dés. C'est tellement prisé à l'époque romaine que du coup, l'empereur Auguste, il a fait interdire les jeux de dés. Alors lui, il aimait quand même les jeux de dés, donc il allait aux tables clandestines jouer, même s'il les a fait interdire. Mais il les a fait interdire parce que ça rendait les Romains fous. Bon, ça veut dire que notre société n'a pas beaucoup changé. On nous interdit des choses. Voilà. Et alors, il y a un truc très, très particulier au jeu de dés, c'est qu'il nous arrive de retrouver ce qu'on appelle des dés pipés. Donc, il y a des morceaux de dés, en fait, qui ont été cassés volontairement. Donc, le dé pipé, en fait, donc, si on part d'un dé en bois ou en os, on casse le côté et puis on met une autre matière qui ressemble à la fin à la couleur du dé, qu'on ne voit pas qu'on l'a pipé, et on joue. Et en fait, ça fausse le poids du dé. Si on l'a bien pipé, ça nous arrange de faire le bon chiffre. Voilà. Donc il arrive en fouille de retrouver ce genre de dé, mais vu que les gens ils jouent leur argent, ils trouvent des moyens pour gagner à tous les tours. Ça. Et on a les jeux de main. Alors les jeux de main, c'est vraiment des jeux de hasard. Il y a le jeu qui s'appelle le... Alors moi j'aime bien l'appeler le... Alors, il s'appelle le jeu de l'amour, mais là, et plus loin, Mour, M-O-U-2-R-E, où en fait on cache nos doigts derrière notre dos, on est deux joueurs. Alors moi j'ai essayé avec... plusieurs joueurs, ça marche aussi, c'est plus compliqué. Et on doit sortir le chiffre en associant les deux mains. Donc, quand on ressort... Alors, on n'a pas le droit de tricher, normalement. Il y a beaucoup de triche aussi. Mais donc, si moi, je sors trois doigts et que Céline aurait sorti deux doigts et je dis 6 et elle dit 1, c'est moi qui gagne, en fait. Il faut associer la somme de mes doigts plus ses doigts. Donc, il y a un maximum de 10. Ça va de 0 à 10. Donc, si on associe d'autres joueurs, c'est compliqué. Mais c'est faisable. Et alors, c'est mon dernier jeu, donc j'en ai créé un, je l'ai emmené. Donc c'est le puzzle d'Archimède qui, à la base, n'est pas un jeu. Puzzle d'Archimède. Moi, je vous ai mis tout à droite une sorte d'écrit, là. Donc ça s'appelle un palin, alors un palinceste. Donc c'est un écrit où on a réécrit par-dessus. Parce qu'à l'époque antique, le papier coûte cher. On n'a pas forcément toujours de l'argent. Donc du coup, cet écrit, ce qu'on fait avec un palinceste, c'est que la feuille qui a été écrite, on essaie d'effacer ce qui est marqué dessus, puis on réécrit dans l'autre sens. Donc si vous regardez là, en fait, on voit qu'il y a des lignes écrites dans ce sens-là, et puis d'autres dans ce sens-là. Donc sur la première couche de l'écrit, il y a les écrits d'Archimède qui parlent du puzzle. Sur la deuxième couche de l'écrit, en fait, c'est une prière. C'était réutilisé par un moine qui a fait une prière. Le tout, c'est que du coup, ça permet d'avoir l'écrit du puzzle d'Archimède. Donc, à la base, Archimède, il a fait un puzzle avec 14 pièces pour arriver à montrer qu'avec ces 14 pièces, il pouvait refaire à peu près 536 fois ce même puzzle en ne remettant pas les pièces à la même place. Donc, c'était plus un travail de dénombrement que de pouvoir jouer avec. C'est après, au fil des années, que le puzzle d'Archimède est devenu un jeu. Il s'apparente alors à ce qu'on peut connaître, par exemple, en Chine, du tangramme. Donc ça, c'est, voilà, c'est un jeu qui existe, le tangramme. Donc, il s'apparente au tangramme. On est sur un niveau qui est un petit peu différent, parce que du coup, il y a les 14 pièces. Donc, soit on peut faire des formes animales avec, soit on peut faire des bonhommes. Je me suis déjà amusée, c'est rigolo. Soit on peut essayer de se concentrer à refaire le carré. Alors déjà, refaire le carré, ça peut mettre beaucoup de temps. Quand on a les pièces en vrac, moi j'ai les pièces en vrac là-bas, si vous voulez. Voilà, donc c'était pour faire le tour des jeux, donc j'ai pas du tout de monopole. Alors ce qui est bien avec les jeux, c'est que vu que c'est vraiment lié à la recherche, aux fouilles, on peut apprendre de nouvelles choses un peu tous les jours. Alors il faut savoir que souvent, ça c'est le gros point négatif, c'est que souvent les objets qui sont trouvés en fouille liés au jeu sont soit dans des tombes funéraires. Donc c'est compliqué en fait de déterminer si certains jeux étaient vraiment liés pour jouer ou s'il a été mis là en fait vraiment dans l'optique funéraire. Il y a peut-être des jeux qui ne servaient pas du tout à jouer en fait. Donc à des fois il y a ce lien qui se connecte entre jeu et religion qui est un petit peu compliqué chez les Romains. Alors moi je m'intéresse qu'au monde romain, donc il va de soi qu'il y ait une évolution des jeux. Donc il y a certains jeux, si on les prend, le jeu des 12 lignes, je sais qu'il y a des spécialistes qui l'ont apparenté après au backgammon, cette idée de déplacer les pions. Donc il y a des évolutions de jeu, ça va de soi. Et pour ce qui est avant, alors pour la partie un peu préhistoire, il est très compliqué de déterminer ce qui est jeu et ce qui n'est pas jeu, parce que souvent les chercheurs ont tendance à dire que les gens à la préhistoire, ils jouaient avec leur environnement, le milieu naturel. Donc un caillou, c'est un caillou. Avant de dire que c'était le pion du jeu, ça peut mettre du temps. Donc c'est tout le problème, c'est que si on joue avec des cailloux, des coquillages, des morceaux de branchage, on ne peut pas définir si c'est un jeu ou pas un jeu. Ça, c'est le problème qui reste. Je sais juste qu'en fouille en Suisse, pour la partie préhistoire, on a retrouvé des petits arcs pour des enfants de 2 ans. Donc lors d'une fouille, alors ces arcs, il y en a plusieurs qui ont été retrouvés. C'est pareil, ça a déterminé ce qu'ils ont été utilisés, pas utilisés. Leur datation est calée, tout un problème. Ils ont entre 5000 ans et 11000 ans. Ça nous laisse une belle latitude. Hein. Bof. Parfois, on n'est pas regardant sur les dates. Donc, du coup, voilà. Donc, forcément qu'ils devaient jouer. Après, dire à quoi exactement ils jouaient, ça reste quand même assez compliqué. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des demandes, il ne faut pas hésiter. Je vous propose d'aller découvrir quelques jeux par là-bas, de vous tester, de voir vos niveaux. Voilà. Ah bah, ça rigole pas. Hein. Alors, dans le monde romain, je crois que souvent, les châtiments sont en fouet. S'il y a triche ou autre. Donc, j'ai fait une intervention hier sur les Jeux Olympiques antiques, donc les Jeux sportifs pour le coup. Donc là, c'est vraiment du jeu pour jouer, mais j'ai fait une intervention sur les Jeux sportifs auprès des enfants hier. Je leur disais que le châtiment pour un tricheur aux Jeux Olympiques antiques, c'était donc du coup, ils n'avaient plus le droit de mettre les pieds sur les Jeux à vie. On criait bien son nom lors de tous les Jeux, puis le nom de ses parents et tout ça, pour bien qu'il y ait quand même la honte. Il était fouetté, et selon la gravité de la triche, alors ça c'est pas mal, on lui demandait de payer une amende, et cette amende permettait de payer une grande statue du dieu qui était vénéré au lieu des jeux. Et en bas de la statue, on remerciait bien sûr le tricheur d'avoir payé la statue. Voilà. Donc, voilà. Donc, on ne fait plus ça, mais ça devait diminuer certainement la triche.
mais ça financerait un petit peu les jeux qui coûtent cher.
Ouais. Non, mais je suis d'accord. Bon, voilà. Donc, je vous propose de passer de l'autre côté pour aller jouer.
Alors,
vous avez des questions ? Il faut en poser, il n'y a pas de souci.
Une toute petite question avant de. Mais alors, qui me vient suite à votre exposé. Pourquoi cette spécialisation sur les jeux et le lien avec le musée de Roranum ?
Je ne suis pas du tout spécialiste du jeu. Moi, je suis animatrice au musée. Chaque année, en fait, avec mon collègue, donc on est deux personnes et puis une autre personne à mi-temps qui travaille sur le musée. Donc, chaque année, on se concerte et on parle un petit peu des activités pédagogiques qu'on veut développer pour les enfants. Donc, il y en a qui restent chaque année, puis il y en a d'autres qu'on développe, qu'on améliore ou qu'on crée carrément. Et donc, on prend ce thème et on commence à le décortiquer. Donc voilà. Alors une année, j'ai dit, vu que j'ai commencé à travailler pour les jeux à taille phallique, je pense qu'on pourrait vraiment faire un beau truc sur les jeux au musée. Alors moi, j'aime bien le côté apprendre en s'amusant, qui a vraiment le côté pédagogique. Donc au musée, effectivement, quand les gens jouent, ils ont droit au support pédagogique à côté. Mais du coup, je sais que demain, il va falloir que je travaille sur le tissage. De prime abord, je ne suis pas du tout dans le tissage.
D'accord.
Je sais que je vais mener...
C'était pas lié à une découverte sur le site à proprement parler ou
Non, alors sur le site, on retrouve des pions, des petits cabochons, ça ressemble à des petits Smarties, c'est beau. On retrouve c'est sympa, on a un fond de peau qui a servi pour jouer au palais, par exemple, ils jouent au palais les Romains. Donc, par contre, les palais étaient en terre. Voilà. Donc, c'est un jeu très adulte. Alors, j'en ai pas parlé parce que c'est pas un jeu vraiment. C'est un jeu qui est lié vraiment à l'espace des termes. Donc on joue au palais en fait au terme, donc voilà. Mais c'est pas non parce que c'est vraiment voilà. Alors évidemment au musée on s'en sert de base. Après je développe parce que je pense que vu qu'on est dans le thème qui correspond à la période du musée, c'est pas mal aussi de faire un peu voyager les gens à l'extérieur et de leur montrer autre chose. Il n'y a pas forcément une chose à un endroit, il y a des choses un peu partout et c'est bien d'arriver à un peu les interconnecter ensemble.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de l'empereur romain qui a interdit les jeux de dés ?
Ah, ça vous plaît, ça. Auguste. On est à cheval entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après, parce qu'Auguste est mort en 14. Donc c'est Auguste. Ah, ça plaît. Il y en a plein, des anecdotes romaines, justement, liées à ce qui peut influencer sur la vie romaine et comment ont interagi les Romains. Il y a beaucoup d'anecdotes sur la vie, justement. Romaine, c'est pour l'enregistrement, je redis, je fais ça bien. Et du coup, ça permet de relier aussi, de montrer que notre vie, aujourd'hui, actuelle, des fois, on a des problématiques de vie. En fait, il y a déjà des gens qu'ils ont connus avant. Et il y a forcément des gens qui détournent les règles qu'ils ont fait ou qu'ils ont imposées ou qui détournent les règles qui leur ont été imposées. Ça marche déjà depuis des siècles et des siècles. Il y a un... Par exemple, je sais qu'il y a un empereur... alors ça n'a rien à voir avec les jeux, mais par exemple, je sais qu'il y a un empereur qui s'appelle Vespasien. Donc lui, par exemple, Vespasien, il a mis une taxe sur l'urine. Alors, ouais, elle a mis une taxe sur l'urine parce qu'à l'époque romaine, les gens déposaient leurs vêtements, le linge blanc, au foulon, en fait, au fouloir. Et celui qui foulait le linge, ça faisait des grandes piscines, il mettait tout dedans. Il récupérait l'urine, donc les gens versaient leur urine dans les pots à l'entrée. Ils mettaient ça dans des grandes piscines. Et dans l'urine, il y a un taux d'ammoniac assez élevé qui permet de blanchir, en fait, le linge blanc. C'est une technique qui est encore utilisée. Hein. Sur les vêtements qu'on porte aujourd'hui, je suis sûre qu'il y a des pays où ils mettent nos vêtements pour le blanchir avant la teinte dans l'urine. Je vois des petites grimaces, mais je pense que c'est encore utilisé. Et du coup, Vespasien, lui, s'est dit... Alors, eux, tout est gratis, quoi. À part monter le bâtiment, ils récoltent l'urine, les gens apportent les vêtements, ils font payer les gens. En fait, leur matière première leur coûte rien. Lui se dit, ça va pas. Donc, il a mis un impôt, une taxe sur l'urine. Donc, l'urine qu'il collectait, il devait verser un impôt à l'empereur. Donc, le fils de Vespasien, quand même, il voit un petit souci. Donc, il lui dit quand même, c'est un peu la honte, parce qu'on taxe l'urine, c'est pas normal. Et Vespasien aurait pris, en fait, son fils, l'aurait basculé dans une caisse de monnaie en or, et lui aurait dit, sans mon argent, on n'a pas d'odeur. D'où viendrait notre expression ? Pareil, c'est de là d'où viendraient ces fameux noms qu'on donne aux toilettes. Alors, on ne les voit plus quasiment, mais à Paris, où on appelait par exemple les Vespasiennes, ça vient de ce fameux empereur. Donc, il y a des choses. Donc voilà, on peut taxer des trucs. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, des fois, on se dit on est taxé pour des trucs, ça n'a pas de sens. En fait, on peut être. C'était déjà, des fois, à l'époque, ça a déjà existé, on avait une taxe, on ne savait pas trop pourquoi. Ça faisait plaisir à l'empereur.
Ouais, il reste des dames pipi, c'est un genre de taxe indirecte, je pense. Ah, ouais.
C'est des amis à l'empereur Vespasien, ça.
Oui, moi, j'ai une question sous forme de remarque. En fait, du coup, si j'ai bien compris, il y a des jeux qui existaient déjà à l'époque qui étaient en fait des reproductions pour l'enfant de ce qui se passe après. Enfin, en tout cas, voilà. Et du coup, j'ai bien aimé le moment où tu dis, ouais, la dinette, c'était pour les femmes. Enfin, voilà, c'était pour faire des bonnes matrones et tout. À quel moment c'est vraiment éloigné de la réalité aujourd'hui ?
Ah, alors, ben. Ah oui.
Parce qu'on a encore des jeux qui sont des reproductions de ce que fait l'adulte, etc. Donc, en fait, ça a été à la fois des inspirations et en même temps des choses qui sont toujours utilisées aujourd'hui. Enfin,
ah ouais, alors moi, j'ai pas fait de pont volontaire avec aujourd'hui. Alors, moi, parce que moi, dans le monde où j'ai eu la chance de grandir et d'évoluer, j'ai pas été, on ne m'a pas imposé de cadre. Moi, par exemple, je suis une petite fille qui voulait une motocross. Donc, on m'a donné une motocross. Voilà. Donc, moi, on m'a pas, voilà, dans ma limite des jeux et tout ça, on m'a pas donné de cadre en disant il faut que tu aies de la dinette parce qu'il faudra que tu fasses la popote. J'ai pas eu ça, moi. Et on reproduit pas ça dans ma famille, en fait. Donc, pour moi, ça, c'est un univers. Donc, j'ai vite compris que dans les autres familles, il y avait quand même ce cadre qui était imposé. Donc moi, j'ai vraiment pas grandi là-dedans. Donc c'est un peu compliqué. Moi, j'ai eu droit aux petites voitures, j'ai eu droit à ce que je voulais en jeu. J'appréciais pas les poupées Barbie parce que j'arrivais pas à les habiller. Donc vous voyez, c'est un truc très personnel, mais j'arrivais pas à les habiller. Je voyais pas l'intérêt de s'enquiquiner pendant un quart d'heure à habiller sa poupée avant de pouvoir jouer. Donc je jouais à autre chose. Donc non, effectivement, malheureusement, et j'ai pu le découvrir à mes dépens après, plus en m'ouvrant vers le monde extérieur, qu'effectivement, et c'est un gros problème aujourd'hui, il y a encore dans beaucoup d'endroits où le jeu est lié forcément à l'orientation de l'enfant. Moi, j'ai déjà entendu beaucoup de gens faire des sorties du genre, c'est un petit garçon, il ne pourra pas jouer à la poupée, sinon ça va en faire une petite fille ou autre. Alors ça, c'est vraiment une problématique, mais c'est un problème de société, en fait. C'est sociétal, mais je peux... Enfin... Ah oui, non, mais oui. Alors, faut... Alors après, c'est très dur de déconstruire dans la tête des gens. Et parfois, on utilise des moyens pour leur faire croire qu'on a déconstruit un truc pour reconstruire dessus. Par exemple, alors moi, à Taïf Ali, en aparté, par exemple, à Taïf Ali, nous, on travaille sur la fin de l'Antiquité. Donc, on est dans la période du 4e, 6e siècle. Donc, on est sur la chute de l'Empire romain avec... cette renaissance là avec la création, la mise en place de la partie chrétienne en fait de notre Europe, qui est un petit peu les fondements de notre Europe. moi, dans tout ce qu'on a retrouvé, on sent que c'est vraiment le marasme. Par contre, du coup, pour arriver à implanter ça, on a fait un petit peu de la triche. Par exemple, Ben Noël, qu'on célèbre par exemple chez les chrétiens, qui tombe le 25 décembre, ça coïncide pile avec le Sol Invictus, qui est le renouveau du soleil, qui dure 7 jours à peu près chez les Romains. Donc chez les Romains, cette fête, elle est capitale. Donc du coup, quand on va implanter un petit peu la christianisation, on va se dire, avant de tout changer les dates partout, on va essayer de racoler ceux qui fêtent quelque chose à une date, à notre date. Alors que je pense qu'au début, il y a des gens qui fêtaient le Sol Invictus, puis les autres disaient, oh bah, c'est que c'est la naissance du Christ. Voilà. Donc c'est des moyens détournés. Donc il y a des choses, à des fois, on croit qu'on nous les fait évoluer, mais on ne les fait pas évoluer. On nous les fait changer de sens, de manière de voir. Voilà. C'est un éternel recommencement. On reprend des trucs, c'est comme les vêtements qu'on porte. Souvent, les vêtements qu'on porte, c'est parce que c'est une tendance d'il y a 40 ans, on vous la ramène, hop, ça nous fait plaisir, on met 2-3 paillettes. Non, mais je caricature, mais voilà, on fait des boucles, en fait. C'est un peu cyclique, notre monde. Donc après, c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Après, voilà, le problème du jeu, oui, ça permet forcément parfois de faire lier des gens. Alors moi, je ne me suis pas penchée dessus. Il y a un autre point aussi que j'aime beaucoup, c'est que moi, par exemple, dans mes groupes d'enfants, quand ils arrivent et qu'ils savent qu'ils vont faire jeu, ils ont tendance à s'orienter dans le jeu, le numérique. Voilà. Et donc, plus ça va, et plus moi, j'ai des groupes scolaires qui mettent les pieds au musée et qui sont déjà dans l'univers numérique et qui quasiment ne connaissent que ça. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui arrivent au musée, ils ne sont jamais allés ni dans un musée, ni dans un espace culturel, ni dans une bibliothèque, parce qu'eux, ils sont renfermés dans l'univers du jeu. Et ça, c'est vraiment, par exemple, ça, c'est pour moi la problématique de notre société de demain. Ce n'est pas une petite problématique, c'est une grosse problématique qui va prendre des grosses proportions, parce qu'on renferme des générations à l'intérieur des écrans. Alors, je n'ai pas développé dessus, mais je pense qu'ils pourraient faire un travail très bien. Et à part ça, le numérique peut apporter du bon.
Oui, je voulais savoir si la troncule et puis le puzzle d'Archimède existent toujours aujourd'hui, à notre époque, ou bien ça a évolué ou ça a disparu.
Alors, le puzzle d'Archimède, je pense qu'on peut l'acheter. Je pense qu'on peut on peut le trouver. Ça, c'est quasiment sûr. La troncule. Donc la troncule, c'est un nom un peu bizarre. Hein. C'est pour le mot latron, en fait, L-A-T-R-O-N-S, qui veut dire mercenaire en latin. Donc c'est un jeu vraiment pour... voilà, c'est le petit plus. Ce jeu-là, en fait, on le retrouve pas dans le commerce, pas du tout. Tout ce qu'on... on peut le trouver. Moi, je l'ai pas vu. Moi, je les ai créés, mes plateaux. Ouais, lui, ça l'est. Non, par contre...
Ils ont développé une gamme de jeux sous forme de tubes et autres avec des rééditions des jeux très anciens.
Ah, c'est là où j'allais venir. Il y a dans le monde de la reconstitution, je sais qu'il y a des reconstituteurs qui sont spécialisés dans des domaines et du coup qu'on en fait un peu leur métier. Je sais par exemple qu'il y a un truc qui s'appelle les marchés des fous de l'histoire où ils vendent parfois des jeux. Et où on peut aller carrément au marché des fous de l'histoire, où on trouve un petit peu des choses sur toutes les époques, où il y a des gens qui vendent leurs objets. Moi, par exemple, j'ai emmené, là vous allez voir tout à l'heure, j'ai emmené des pions en os. Mes pions en os, j'ai acheté chez un tabletier. Demain, j'arrive à Poitiers, je cherche un tabletier, j'en ai pas un. C'est que je me suis rendue dans un endroit très spécialisé pour obtenir ce que je voulais. C'est un artisan qui habite dans les pays nordiques. Donc, qui vient en France une fois par an, et je lui ai demandé ce que je voulais. Donc il y a des gens très spécialisés qui peuvent le faire. On ne le trouvera pas au champ. Quoi. Nous ne cachons pas sur...
Non. Voilà. Et juste pour donner une petite information, dans la région, il y a un musée qui a un fonds de jeux anciens, qui est à Épanvilliers, où il y a des jeux gallo-romains, il y a des jeux égyptiens, il y a des jeux modernes. C'est un passionné suisse qui fait vivre son château 2 mois par an. Donc on peut le visiter en juillet et août uniquement. Alors la collection n'est pas très mise en valeur, mais il y a vraiment des pièces magnifiques. Et c'est pas loin d'ici.
Juste pour rebondir, donc il y a effectivement comme réponse à apporter donc plusieurs sociétés et plusieurs sites internet qui proposent des jeux anciens, antiques en réédition, redéveloppés donc sur mesure. Il y avait un site d'ailleurs très bien qui a disparu il y a peu de temps qui s'appelait Géoludiz et qui était vraiment une mine d'or et c'est un vrai crève-cœur en tant que membre du jeu, du monde du jeu d'avoir vu disparaître cette ressource-là puisque les personnes qui géraient ce site produisaient à la fois du jeu sur mesure ancien mais proposaient aussi en mise à disposition gratuite les règles de ces jeux. Voyez, donc avec l'histoire, une brève histoire à chaque fois de où on a retrouvé ce jeu. Donc ça c'est vraiment bon. Passons. Mais sinon, pour rebondir sur l'autre sujet qui était de savoir pourquoi est-ce que finalement on reproduit à travers le jeu certains comportements, c'est plutôt l'inverse. C'est le jeu est un reflet des comportements d'une époque et qu'il faut bien différencier de la façon d'éduquer à une époque ou à un instant T et encore bien différencier également du fait que le jeu fait partie du développement de l'enfant. Et le jeu est sérieux pour l'enfant. Que ce soit dans le jeu d'imitation, le jeu de construction, le jeu de stratégie. La règle du jeu pour l'enfant est quelque chose de très 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 sérieux. Et c'est pour ça qu'un enfant se met en colère lorsqu'il découvre qu'un adulte triche à un certain âge. Voilà. Ça fait partie de ses réactions normales. Mais c'est à bien différencier. Donc le jeu est une partie importante du développement de l'enfant, peu importe après l'éducation qui est autour, peu importe la couleur de ses vêtements. Enfin, après ça n'a aucun... Voilà. Alors effectivement, à une époque gallo-romaine, la femme n'avait pas la même position dans la société. Il y a d'ailleurs des études qui ont été montrées là-dessus, hein, que ce soit la femme dans l'Antiquité, à l'époque gallo-romaine ou à l'époque de la Grèce antique, où la femme était vraiment sur le côté gestion de la vie domestique et donc de la maison et des esclaves qui y étaient, tandis que l'homme, lui, avait la représentation et le droit, si on peut dire ça, de vote ou de voix, de cité, et le droit d'aller se battre. Donc il y avait vraiment des rôles très partagés avec des droits qui ont évolué, voilà, et les Romains n'étaient effectivement pas les plus sympas. D'ailleurs, pour donner une petite anecdote historique, parce que je suis formation historienne moi aussi, et le jeu dans l'histoire m'intéresse énormément, mais les Étrusques étaient beaucoup plus libérés sur le rôle entre l'homme et la femme, et quand les Romains s'en sont rendus compte, ils ont anéanti cette civilisation. Ils l'ont assimilée et anéanti pour imposer leur propre dogme et leur propre façon de fonctionner. Voilà, petit aparté. Les Gaulois étaient plus ouverts, effectivement, oui. Et on a d'ailleurs, archéologiquement, par exemple, on a toujours ce sentiment à cause du cinéma que les femmes ne se battaient pas pour défendre la maison et que seul l'homme prenait l'arme pour se défendre. Eh bien, en tout cas, sur les champs de bataille ou au pied des remparts des anciennes cités gauloises, on retrouve autant de squelettes de femmes que de squelettes d'hommes. C'est-à-dire qu'elles se battaient aux côtés des hommes pour défendre leur cité lorsqu'elle était attaquée. Et ça, c'est quelque chose que je regrette profondément, en tout cas moi pour ma génération, qu'on ne nous ait pas enseigné dès l'école primaire. Et j'espère qu'à partir de maintenant, ça sera des choses qui évolueront. Voilà.
Et c'est pareil, il y a 2-3 ans, au Musaron, on a monté une exposition sur la femme dans le monde romain, qui s'appelle « Femmes d'ombre et de lumière ». On avait travaillé avec l'Espace Mens France. Cette exposition, elle montre et le côté de la femme qui est un petit peu en servitude à son mari parce qu'elle n'est pas libre. Hein, concrètement, c'est son mari qui a le droit de vie ou de mort sur elle. Et parallèlement, c'est ce qui a donné aussi la possibilité à des femmes, à l'époque en tout cas romaine, gallo-romaine, de prendre des pouvoirs extraordinaires. On a quand même une impératrice qui s'appelle Livia qui a fini par devenir impératrice dans un monde d'hommes. Donc il y a des femmes qui vont avoir de la stratégie et de la manipulation très très grande pour arriver à avoir le pouvoir. Donc il ne faut pas croire que toutes les femmes sont mises, des femmes qui sont assez intelligentes pour détourner le désavantage à leur avantage. Ah, parce que bon, je veux bien qu'on...
On a parlé de l'évolution de la règle dans le temps tout à l'heure. L'une d'entre elles qui me vient et qui est vraiment contemporaine, tout le monde connaît le jeu du Monopoly et tout le monde se retrouve très certainement face à des situations où quand quelqu'un fait un double 6, il empoche l'argent qui a été taxé et mis au milieu de la table. Et bien ça, c'est une règle totalement inventée, elle ne fait pas partie de la règle de départ du Monopoly, mais elle est devenue, on se l'approprie, elle est devenue publique, alors qu'à la base, quand le jeu vous taxe, ça part à la banque et terminé. C'est même pas écrit dans les règles, non.
Bien, on va passer à l'atelier pratique maintenant.
Il n'y a pas de jeu du siècle, non. Je suis coincée, il ne veut pas que je sois. C'est une autre forme de jeu. Et pourquoi il ne veut pas me dire que je vais enlever ma clé?
Il est lent.
C'est ta faute, Céline.